sur le caractère plus ou moins merveilleux de ce processus. Dans les deux cas, de même, il s'agit de l'apparition d'une connaissance, d'une chorma. Mais l'objet de la réflexion n'est pas le même. L'objet de la réflexion n'est pas le même. La Torah se veut être la science de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire d'abord en tant qu'être moral. Et là je donne le deuxième volet de cette transcendance de la loi que j'avais commencé à étudier précédemment. La Torah se veut être la science de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire, premier lieu, en tant qu'être moral. Elle est ce que l'on appelle Sefer Toldot Adam, le livre des engendrements de l'homme. Elle ne scrute pas tel ou tel domaine particulier de la réalité, mais la destinée de l'homme en tant que tel, par-delà ses conditionnements variés, psychologiques, sociologiques, économiques ou autres. Et il en résulte, et c'est là quelque chose également qu'il faudrait répéter un nombre interminable de fois, il en résulte que la Torah s'adresse à la fois à la volonté de l'homme et à sa pensée. Il en résulte que son contenu se présente d'emblée et d'une manière indiscernable comme connaissance et comme norme. Il n'y a d'ailleurs là aucun paradoxe. La découverte du bien et l'obligation qui en résulte sont contemporaines. La connaissance qui se révèle dans la Torah écrite et dans la Torah orale n'est pas neutre. L'homme s'y trouve impliqué sans pouvoir s'y soustraire. Un texte du Pirkei Avot que je n'ai pas tapé à la machine dit, en fait je l'ai rajouté après, c'est pour ça, dit que tu le veuilles ou non, tu vis, que tu le veuilles ou non, tu vas mourir, que tu le veuilles ou non, tu es appelé à rendre compte. Ainsi, le problème moral est pour l'homme aussi inévitable, aussi consubstantiel à son être, que sa vie, que son existence même. Résumons ces quelques idées qui définissent le pharisianisme, et après je vous apporterai quelques compléments. Dépassement de la conception religieuse et dogmatique de la révélation. Existence d'une tradition orale reçue, transmise et approfondie, génération après génération. Constitution d'une connaissance structurée et hiérarchisée. Découverte d'une vérité complexe, parfois même contradictoire. Existence d'une collectivité de chachamim, ayant pleine autorité et ayant elle seule autorité dans la recherche de cette vérité. Vérité absolue et transcendante, dont l'objet propre est l'étude de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire d'abord et avant tout en tant qu'être moral. Enfin, effort unique dans l'histoire pour hausser tout un peuple, à partir de son expérience historique et de sa vie quotidienne, à la hauteur de valeurs absolues et de principes abstraits. Voilà ce qu'est, comment on peut analyser, à mon sens, le pharisianisme. Il y aurait certainement d'autres choses à rajouter, mais pour ce soir, je m'arrêterai là. Et tout ce que j'ai dit se résume ainsi, et mieux que je ne l'ai dit, dans cet énoncé classique, Ratsa Akadosh Baruch Hu, le Zakot et Israël, le Fichach Hirba Laem Torah ou Mitzvot. Dieu a voulu faire mériter Israël, c'est pourquoi il a multiplié pour eux la Torah et les Mitzvot. Non, c'est pas fini. Vous voulez que j'arrête ? Là, ça devient plus délicat. Je voudrais maintenant... Ça devient de l'équilibre. Je voudrais maintenant, dans la dernière partie de cet exposé, aborder un problème actuel. Deux problèmes actuels. On entend souvent dire, depuis la rédaction du Shulchan Aruch, le judaïsme traditionnel s'est sclérosé, il ne progresse plus. Première question. Par ailleurs, dit-on, il ne répond pas aux exigences de l'homme moderne. Deuxième question. Formellement parlant, les deux questions sont disjointes. Sclérose et réponse à l'exigence moderne, ce sont deux problèmes distincts. Il y a quatre possibilités. Sclérose et réponse, sclérose et non-réponse, non-sclérose. Bien. Donc je traiterai ces deux questions séparément. Il m'est apparu, en préparant cet exposé sur les pharisiens, que ces questions s'y rattachent directement et que par conséquent, il n'aurait pas été parfaitement honnête de les éluder, malgré leur caractère, comme on dit en hébreu, rikshi, je crois, sensible. Dans leur examen, il nous faut éviter deux écueils opposés, que pour simplifier, j'appellerai l'écueil du communiste et l'écueil du parfumeur. L'écueil du communiste consiste à prendre l'attitude d'un militant, à présenter au dehors une doctrine sans faille, sans doute et sans problème. Le communiste discute librement, probablement au sein de sa cellule, mais dès qu'il en sort, il devient un représentant de son parti. La nécessité de l'efficacité dans l'action, ou de ce qu'il croit être l'efficacité, lui impose de masquer les problèmes qui se posent. Il répercute les formules acceptées, applique sans hésitation, jusqu'au moment où il est exclu, la politique décidée. Lorsqu'il parle, le communiste n'examine pas réellement les problèmes pour eux-mêmes, il agit en militant. Au risque de m'attirer quelques critiques, je ne prendrai pas dans l'examen du problème qui va nous occuper l'attitude d'un militant. Mais il y a un deuxième écueil à éviter, c'est l'écueil du parfumeur, et il n'est pas moins néfaste. Le parfumeur parfume. Son rôle est de plaire. Il doit proposer au client le parfum qui va le satisfaire. Peu lui importe que le parfum ne soit vulgaire, pourvu qu'il soit à la mode. Dans certains cas, il arrive même qu'il vende son parfum mélangé à un talc dangereux et que cela ne conduise au désastre. Là également, au risque de déplaire, il nous faut éviter l'attitude du parfumeur. La bonne méthode consiste donc à analyser nos deux problèmes dans leur vérité pure, à bien les décomposer en leurs éléments, à la fois sans masquer les questions qui se posent, mais aussi sans concession à la mode. Je veux ici encore préciser un point. Il ne faut chercher dans tout ce que je vais dire aucun jugement sur les personnes. D'abord parce que je ne suis aucunement qualifié pour emporter et que, pas plus que personne d'entre vous, je n'ai envie de me ridiculiser. Mais surtout parce que, à mon sens, un tel jugement est impossible. Pendant les 200 dernières années, les événements et les bouleversements se sont succédés à un rythme trop rapide pour pouvoir être véritablement maîtrisés. Les hommes et les groupes ont été pris dans un tourbillon sans un instant de répit. Et par conséquent, rechercher des responsabilités est une tâche vaine. Mon seul but est donc d'essayer de dégager les bonnes notions pour analyser la situation actuelle de la tradition et tracer quelques lignes d'action possibles. D'abord, qu'en est-il au juste de la sclérose ? Je m'excuse dans ce qui va suivre à l'égard de ceux qui ont déjà entendu certains exposés. Il y aura des redites indispensables. Il nous faut ici introduire une distinction. Très généralement parlant, les lois juives sont de deux types. D'une part, l'ensemble des lois dites de Issur Veheter, les lois du permis et de l'interdit. De l'autre, les lois qualifiées de dîner mammonot, les questions d'argent, et ceci pris dans un sens très large. C'est là une classification commode, même si, bien sûr, maintes questions peuvent se trouver à la frontière de ces deux domaines. Par exemple, les lois régissant les rites, les lois alimentaires, les interdits sexuels, les règles qui valident les mariages, les divorces, les naturalisations, tout cela appartient au domaine issurveiter, du permis et de l'interdit. Par contre, les lois commerciales, l'essentiel du droit des contrats, les locations, l'administration de la communauté, tout cela est classé dans les dîners mamonotes, ce que l'on appelle couramment le droit. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, ici même, à plusieurs reprises, que jusque vers la fin du XVIIIe siècle, ces deux branches de la loi juive se sont développées simultanément. Les Chachamim étaient, avant tout, les autorités judiciaires du peuple juif et tenaient un rôle indispensable dans l'organisation de la vie sociale. Avec l'apparition de l'État moderne et centralisé, le peuple juif a perdu l'autonomie juridique dont il jouissait jusqu'alors. Et le rôle des Chachamim s'est trouvé réduit à celui d'autorité religieuse. Je ne vais pas reprendre ici, ce soir, l'analyse détaillée des conséquences de ce désastre que nous avions déjà fait. Je veux juste en isoler ce qui est relatif à notre problème de ce soir. C'est très simple. Depuis deux siècles, l'essentiel des recherches, des discussions, des publications a porté sur des questions rituelles ou un peu plus généralement sur cette partie de la loi appelée Issur Vaheter, permis et interdit. Et l'immense domaine des lois de Dîner Mamonot a été négligé et devenu académique. Les problèmes nouveaux posés par la société industrielle moderne, changements dans les conditions de travail, problèmes de sécurité sociale, droits des entreprises, nouvelles relations commerciales, etc. Tous ces problèmes n'ont pas été étudiés, ou presque pas. Et ceci pour une raison très simple. Les Chachamim, ne disposant d'aucun pouvoir de décision dans ces domaines, leur étude approfondie est devenue inutile. Le droit juif, pas plus qu'un autre, ne se crée pas simplement pour satisfaire à une inquiétude intellectuelle. Il vient d'abord dire ce qui est juste dans les situations apparaissant dans la vie réelle. On peut donc dire ceci, en ce qui concerne les dîners mamonot, incontestablement, il y a bien eu sclérose, arrêt du développement de la tradition juive. Et j'ai déjà dit que rétablir le fil de cette tradition est devenue une tâche indispensable. Mais inversement, jamais dans l'histoire juive, la recherche dans le domaine Issur Vaheter n'a été aussi active. L'effort des Chachamim s'est emporté presque exclusivement sur ce domaine. Un travail considérable d'approfondissement et de clarification a été accompli. Notamment, toutes les questions nouvelles que pose l'apparition des techniques modernes ont été et continuent à être discutées. Parler ici de sclérose, c'est méconnaître la réalité. Assurément, ce ne sont pas des travaux aisément accessibles. On ne peut les aborder que, et les comprendre qu'après une préparation sérieuse. Mais une telle situation prévaut à l'heure actuelle dans toutes les sciences, dans tous les ordres de connaissances, sans exception. Voilà pour la sclérose. Méditons aussi les données de la tradition juive, même dans le domaine qui est actuellement le sien, celui du Issur Vaheter, ne répondent plus aux exigences de la société moderne, aux exigences de l'homme moderne. Qu'en est-il exactement ? Pour la commodité de l'exposé, je vais distinguer et traiter séparément trois types d'exigences que j'appellerai l'exigence d'explication, l'exigence de solution et l'exigence de dissolution. Exigence d'explication d'abord. L'homme moderne a besoin, plus que par le passé, qu'on lui donne des explications, des justifications. Le développement des sciences, des arts, de la culture, l'élévation considérable du niveau intellectuel dans toute la société ambiante, se sont traduits à l'intérieur de la société juive par une exigence accrue de compréhension de la loi. L'homme moderne demande pourquoi. Quel sens cela a-t-il ? Il ne se satisfait plus aussi facilement de la réponse « telle est la loi » et « il n'y a pas à en chercher les raisons ». Une telle exigence est-elle légitime ? La tradition juive elle-même la reconnaît-elle comme valable ? Ce point a pu être parfois controversé, mais cependant on peut dire que l'approfondissement du sens des commandements a été reconnu comme légitime par la très grande majorité des Chachamim. Il suffit de citer entre autres Sadia Gaon, Maïmonide, Nachmanide, toute la tradition kabbaliste et encore d'autres. Plus récemment, le Rav Kook a écrit que c'est une tâche particulièrement nécessaire à notre époque et que ce domaine que ce domaine n'a été encore qu'insuffisamment exploré. Notamment, selon l'une de ses formules, très remarquable à mon sens, il convient d'expliciter plus avant la relation entre les principes généraux et les détails dans l'ensemble de la tradition juive. Ainsi, on peut dire que l'exigence d'explication est légitime, qu'il convient d'y répondre de façon plus satisfaisante. C'est là une tâche nécessaire, même si, à mon sens, elle est moins urgente que celle de renouer avec le fil du droit juif. La deuxième exigence est ce que l'on peut appeler l'exigence de solution. Il existe dans le domaine du Issour Veter quelques problèmes, en nombre d'ailleurs très limité, qui n'ont pas encore trouvé une solution satisfaisante. Je n'entrerai pas dans les détails, je pense notamment à quelques problèmes relatifs au mariage et au divorce. Il y a à cet état de fait plusieurs raisons. Sans doute la raison majeure, la raison prééminente, en a été la dispersion des communautés. L'absence d'une autorité centrale reconnue dans l'ensemble du monde juif rend difficile certaines décisions. Dans certains domaines sensibles de la loi, il convient de préserver l'unité de comportement des différentes communautés juives. Et puis, par ailleurs, la multiplication des centres de décision peut faire légitimement craindre des dérapages. Mais il n'en reste pas moins que cette exigence de solution de certains problèmes est légitime et reconnue comme telle par la tradition elle-même. Et d'ailleurs, on peut raisonnablement espérer que maintenant, le rôle central qu'a acquis Eretz Israël dans la vie juive permettra de, dans un avenir proche, de régler ces quelques problèmes pendants. Mais il existe une troisième exigence bien différente des précédentes, c'est l'exigence de dissolution. Précisons un petit peu cela. La loi juive ordonne, et cela dans un double sens. Tout d'abord, elle est un joug, une contrainte, une obligation. Elle ordonne en ce sens qu'elle commande. Et d'autre part, elle ordonne en ce sens qu'elle vise à mettre un ordre dans tous les aspects de la vie humaine, depuis les plus nobles jusqu'aux plus insignifiants et aux plus quotidiens. Il y a chez le juif moderne une exigence de dissolution de l'ordre de la loi. Il refuse aussi bien le commandement, la loi en tant que loi, l'obligation, que la mise en ordre, par un système conceptuel de sa vie quotidienne. À vrai dire, une telle situation n'est pas tout à fait nouvelle, je dirais même qu'elle est très ancienne. Le prophète Ézéchiel, chapitre 20, signale déjà cette demande des Hébreux de son temps, nier qu'à Goïm, nous voulons être comme les autres peuples. Et de même, quelques siècles plus tard, Philon signale que les Juifs hellénisants rejetaient les lois traditionnelles qu'ils considéraient déjà comme dépassées. Le refus de la contrainte et de la mise en ordre, le souhait d'entrer de plein pied dans la société ambiante, sont ainsi des tentations latentes et qui périodiquement déploient leurs effets. L'exigence de dissolution est, pardonnez-moi l'expression, un cheval de retour, mais qui cette fois est revenu au galop. Face à cette exigence, la réaction des autorités traditionnelles ne peut être que négative. De par son essence même, la loi n'est pas un menu à la carte, un ensemble d'incitations et d'exemples de bonne conduite, parmi lesquels la liberté individuelle doit choisir. L'existence d'une loi en tant que loi, d'un ordre qui vient pénétrer le quotidien, sont des principes tellement centraux qu'aucune concession à cet égard n'est possible. Et croire qu'une modification de l'attitude traditionnelle soit possible sur ce sujet serait non seulement se bercer d'illusions, mais serait ne pas comprendre l'essence même du judaïsme pharisien. Je dis bien, croire qu'une modification de l'attitude traditionnelle soit possible là, ce n'est pas seulement se bercer d'illusions, mais c'est ne rien comprendre. Actuellement, la majorité du peuple juif viole des règles aussi cruciales que le respect du Shabbat ou les lois de Nida. Une telle situation engendre méfiance, suspicion, voire même condamnation. Un cercle vicieux de rejet réciproque s'est ainsi constitué. Certes, dans bien des cas, la méfiance et la suspicion sont exagérées. Et dans bien des cas, les condamnations sont injustifiées. Mais il faut dire que l'enjeu et les risques sont tellement importants que la sérénité est difficilement possible. On peut répondre oui à l'exigence d'explication, oui à l'exigence de solution, mais on doit répondre non à l'exigence de dissolution. Comment, d'un point de vue pratique, revenir à une situation normale? Comment rétablir la confiance et l'affection qui prévalaient entre le peuple et ses chachamim? Nous n'en avons pour l'instant ni la recette exacte, ni le cuisinier. On peut conclure cependant d'une façon optimiste. Il y a en effet de nombreux indices laissant présager une évolution positive sur tous les problèmes que l'on vient d'évoquer. Le retour au droit juif est de plus en plus envisagé. Paraît-il, j'ai lu avant-hier que même Mme Shulamit Aloni commençait à modifier ses positions. Le retour au droit juif est de plus en plus envisagé. Il existe, d'autre part, des efforts, à la fois variés dans la présentation, mais convergents sur le fond, d'explicitation du sens de la tradition. Sur un plan plus technique, un nombre considérable d'ouvrages qui étaient depuis longtemps introuvables sont réédités. Et enfin, de nombreux livres très remarquables de synthèse voient le jour. En somme, je dirais que tout se met en place pour ce que le Rav Kook appelait la révolution du retour au Sinaï. Il ne manque plus que le déclic.
Bien, je crois que je me fais votre interprète en remerciant chaleureusement Georgie Ancel de son brillant exposé, déjà prêt, comme je le vois, pour la publication, sans pratiquement changer un dagesh. Et je pense que vous comprenez par vous-même qu'on aurait pu consacrer tout le séminaire sur ce point précis du problème. Peut-être qu'on le reprendra d'ailleurs dans une autre occasion. J'ai personnellement quelques petites questions, et des grandes aussi d'ailleurs, en prospective, à poser à notre conférencier. Mais je préfère vous donner la parole en espérant d'ailleurs que ce soit vous qui posiez aussi ces questions-là. Bien. Oui. Plus fort.
Si vous pouvez venir au micro, je crois que ça serait mieux. Non, mal. À la vérité, on a pris l'habitude de traduire Chacham par sage. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ambigu. On peut avoir une préférence pour la traduction. Hein, on peut appeler Chacham sage ou savant, comme vous préférez. Je vous laisse le choix. De toute façon, les savants extérieurs, les savants des sciences extérieures à la tradition s'appellent des Chachamim. Ça, c'est une chose parfaitement claire. Par conséquent, si vous traduisez « chacham » au sens de la Torah par « savant », il n'y a aucune erreur d'interprétation. Non, j'ai voulu dire l'objet de la Torah, l'objet de la science, de ce qu'on appelle Chochmat HaTorah, n'est pas le même que l'objet des Chochmot, des sciences extérieures. Ce n'est pas le même objet. J'ai dit qu'il y a des convergences dans la méthode, il y a des similitudes dans la méthode, il y a une différence complète de contenu. Voilà ce que j'ai dit, oui. C'est terrible, ça. Oui. Il va dire que je suis un traître à la cause juive. Je sais pas. Non, pas grave, non. Ah, pardon.
Et c'est pas moi qui vais l'exposer.
Pharisiens.
Pharisiens. Le modérer peut-être s'il y a des gens qui veulent. En tout cas, une chose que je voudrais dire, je ne vous ai pas mis dans la communauté ni des Samaritains, ni des Sadducéens, ni des Caraïbes, ça, il n'y a pas de doute. Non, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, monsieur. Bien, écoutez, je vais essayer en une phrase et demie de relier un peu vos deux problèmes. Nous aurons à toucher cette question jeudi soir, lors de l'exposé du pasteur Dumas. Mais M. Ancel, déjà ce soir et moi hier, nous avons déjà fait allusion à ce qu'il y a un emploi abusif du mot étymologiquement « prochim » en hébreu, qui désigne la tradition talmudique par les talmudistes eux-mêmes, et je viens à votre question, dans le vocabulaire français, à travers la longue histoire de la controverse chrétienne, qui a reporté sur les juifs, c'est-à-dire les pharisiens, le sens de hypocrite. Et nous n'avons pas parlé de ce problème, ni hier, ni ce soir. Mais il est bien évident que cette catégorie, et là je vous réponds, cher ami, est très authentiquement traditionnelle talmudique. Et en particulier dans la Gemara de Sota, j'aurai peut-être l'occasion de citer ça jeudi soir, la Gemara établit une liste de 7 sortes de Purushim, dont une partie de ces sortes-là, enfin disons jusqu'à la 7e, c'est assez inauthentique, peut être réputée hypocrite, tsvoim en hébreu. C'est-à-dire un pharisien, un homme juif, qui prend le parti de l'attitude pharisienne traditionnelle, classique, telle qu'elle nous a été expliquée ce soir, a le risque de devenir hypocrite s'il n'est pas sincère. Et c'est pourquoi, dans le contexte que vous avez cité, eh bien, il faut craindre que on tombe dans ce travers. Je vous citerai une de ces catégories. La sorte de pharisiens que le Talmud appelle les pharisiens qui se font une bosse sur le front, qui ont une bosse sur le front. Alors certains disent que cette catégorie-là, en réalité, il faut les appeler ceux qui marchent les yeux baissés. Puis finalement, on nous explique que c'est les mêmes. Et voilà de quoi il s'agit, ce sont les pharisiens qui marchent les yeux baissés pour ne pas regarder les femmes. Alors ils rentrent dans le mur, ils se font une bosse sur le front. Il y a cette catégorie comme ça, on aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Ce que, à mon sens, M. Ancel a voulu dire, c'est qu'il y a une attitude analogue vis-à-vis de la loi dans ces différentes catégories dont certaines, vous avez raison, ne sont pas juives, sont sorties complètement du peuple juif. Par exemple, les Samaritains, c'est assez ambigu, si vous voulez, on peut en parler très peu, ce sont des populations que les Babyloniens ont installées dans la région de Shomron, pas Yehuda, mais Shomron, qu'on appelle encore la Samarie aujourd'hui, pour remplacer les Israélites déportés en Babylonie, qui ont adopté, suivant les conceptions de l'époque, la religion du terroir, du territoire. On les appelait les Guioré Arayot avec Aleph, ceux qui ont eu peur des lions, parce que les bêtes sauvages leur faisaient des dégâts dans leur village. Alors, suivant les conceptions du temps, on s'est dit, parce qu'ils ne pratiquent pas les lois du peuple qui habitait le pays. Alors, ils ont appris la Torah des Juifs, mais un peu à leur manière. Et leur attitude est très analogue formellement à l'attitude des Sadducéens, dont j'ai parlé hier, ou bien, selon l'exposé, des Karaïtes, qui ont aussi quitté le peuple juif du point de vue national, ou bien, et ça je laisse la responsabilité, mais je partage, mais c'est lui qui a dit, les libéraux. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait aussi une autre catégorie, les Leibovitch, je reviendrai peut-être sur ce problème tout à l'heure, parce que j'ai aussi une question de vocabulaire à poser, mais je ne pense pas que M. Ancel ait voulu dire que c'est dans le même sac. C'est l'attitude formelle qui est analogue. Et vous avez raison de dire, enfin, à mon sens, que nous avons surtout une relation avec le parti pris des Sadducéens qui sont dans la communauté juive encore, mais l'histoire nous montre que ça va vers une divergence grave. Je n'ai pas parlé des libéraux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Là, tu fais erreur. Il y a eu énormément de publications sur ces questions, plus que tu ne pourrais en étudier pendant toute cette année. Ne serait-ce qu'un livre entier du Rav Kook publié là-dessus. Oui, il y a longtemps. Ça n'arrête pas, si tu veux. Ça n'arrête pas.
Oui, mademoiselle. Plus fort, s'il vous plaît.
J'ai dit une attitude de rejet réciproque. Il s'est créé un cercle vicieux de méfiance réciproque, de condamnation réciproque, de suspicion réciproque, de ceux qui se rendent compte qu'il s'agit là de principes cruciaux que l'on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas passer, et de ceux qui, parce qu'ils ont été, comme on dit, selon l'expression talmudique, Tinok Shenishba Ben Haakum, parce qu'ils ont été faits prisonniers par des idées étrangères, se sont écartés de ces principes fondamentaux. Voilà ce que je veux dire.
Eh bien, oui, si vous permettez, j'ai d'abord deux petites questions de vocabulaire à poser à Georgie. Une qui est pratiquement anodine, mais reliée à la seconde. Pourquoi tu as traduit les gaillères par naturaliser, qui est un terme habituellement plus national que religieux? Deuxièmement, l'emploi du terme religieux pour définir ces catégories, sadducéens, samaritains, libéraux, les bovis. Je ne dis pas que je ne comprends pas. Mais je crois que si des gens parlent français, il faut tenir compte du sens et des implications des mots de la langue. Je pense personnellement que, pour rester dans ton idée que je partage, peut-être que le mot de confessionnel serait beaucoup plus adapté au mot de religieux dans l'analyse critique que tu as faite, pour la raison élémentaire, parce que dans la Torah, il y a aussi la dimension dite religieuse en français des mitzvot qui concernent Ben Adam Lamakom. Et alors, il risque d'y avoir là une impropriété, en tout cas au moins pédagogique. Je n'ignore pas que ça pose aussi des problèmes idéologiques de fond, mais ce n'est pas cela que je voulais poser, c'est une question de vocabulaire. Et puis ensuite, ça dépend de vous, parce qu'il est déjà 10h15, peut-être on peut quand même prendre un peu de temps pour y réfléchir, au moins à grande envolée. J'aimerais bien avoir ton avis sur deux points. Premièrement, comment envisagerais-tu la possibilité de renouer le fil avec cette collégialité à l'échelle de tout le clan d'Israël qui a été brisée il y a quelques générations et à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure. Et deuxièmement, peux-tu nous dire au moins brièvement la manière dont se relie à ton exposé le problème contemporain, cette fois c'est moi qui le pose, de la raison pour laquelle il y a un tel désarroi de fond concernant le problème d'Eretz Israël chez les Talmidei Chachamim, et est-ce que, à ton sens, ce n'est que du genre des machloquettes habituelles qui sont toutes à l'intérieur de Elou Ve'Elou Dibre Elokim Chaim, ou bien est-ce qu'il y a là un problème nouveau, historiquement nouveau, et point de suspense. Et c'est peut-être autant d'heures qu'il faudrait prendre pour chaque problème, mais enfin au moins succinctement.
Bon, je ne sais pas si je vais arriver vraiment bien à répondre à des questions sur lesquelles il me faudrait sûrement plus de préparation. D'abord, les questions de terminologie. Pourquoi j'ai traduit le Gaïr par naturalisé? Parce que, qu'est-ce qui constitue la Guéroute essentiellement? C'est une décision de tribunal qui décide que quelqu'un qui n'est pas juif devient juif. C'est exactement ce qu'on appelle, dans tous les pays qui sont soumis à des règles de droit, une naturalisation. Quand un Polonais vient en France, on ne lui demande pas l'adhésion à une idéologie française ou à une culture française. On lui demande d'accepter de vivre selon les lois qui régissent le peuple français. C'est bien là une naturalisation.
Ça, je crois qu'on peut adopter de ce point de vue.
Et le terme classique de conversion signifie conversion à une idéologie, conversion à une conception, ce qui ne représente en rien ce qui se passe dans une guéroute. Il faudrait en fait traduire guerre par résidence. C'est quelqu'un qui vient résider et qui vient s'identifier à un peuple existant. Et l'aspect idéologique de la question est tout à fait secondaire.